Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. Amitié, amour, amour, amitié. Nous parlerons aujourd'hui d'un livre, d'un vrai poème en prose, d'une chanson d'amour. Son titre, « Des gens qui s'aiment ». Et quand vous l'aurez lu, ce livre, vous constaterez avec moi qu'il n'y avait pas un plus beau titre, plus naturel, plus fort. Un petit livre de 135 pages, où chaque page est un bouquet d'amour. Je voudrais d'ailleurs vous lire quelques lignes de la préface qui a été écrite par M. Harry Torgman. La plus belle déclaration d'amitié qui m'ait été donnée de lire. Une histoire hors du commun, voire miraculeuse, où l'amour et l'amitié se mêlent dans la plus grande harmonie. Des lignes qui nous replacent dans la confiance et la bienveillance absolue. Bonsoir Carole Bérébi. Merci d'être avec nous ce soir. Tu es l'auteure de ce livre et je suis très heureux de t'accueillir.
Merci Roland. Et je suis très émue d'être dans ce studio aujourd'hui pour parler des gens qui s'aiment.
Alors, la première de couverture est un tableau de Sébastien Adam, qui est un peintre, qui est né en 1932 et qui est mort en 2021. Le titre, c'est « Deux femmes, dont Sarah enceinte ». Je suppose que c'est un choix qui est bien réfléchi.
C'est une très jolie histoire. Mon éditeur, pendant quelques mois, a cherché des cabinets extérieurs pour faire la couverture. Et malheureusement, chaque fois qu'il me proposait quelque chose, c'est vrai que j'étais un peu exigeante, puisque je ne vais pas écrire 10 livres, j'ai écrit un livre et je crois que ce sera le livre de ma vie. Ça ne correspondait pas. Il me donnait 3 personnages devant un coucher de soleil, toujours le 3, l'amitié. Et à la fin, je lui ai gentiment redit, tu sais, c'est une histoire de ventre, c'est une histoire de femme. Et ce qu'il a dit, Tigrane, il a dit, tu sais, mon père, c'était un peintre, un sculpteur. Et à la maison, j'ai ma mère enceinte et moi dans son ventre. Est-ce que tu veux que je t'envoie les photos ? Il m'envoie 10 d'illustrations et je les trouve plus belles l'une que l'autre. Et je lui dis, choisis celle que tu veux. Il y a une femme enceinte et c'est mon éditeur qui est dans le ventre de sa maman. Et à côté, il y a la meilleure amie de son père. Et je tiens à dire que Mama Édition, c'est un éditeur extraordinaire. Voilà.
Adapté à un livre extraordinaire.
Merci.
Alors, j'ai lu ce livre d'un trait, sans pouvoir m'arrêter. Puis, j'ai repris doucement la lecture, lentement, pour goûter, pour sentir, pour écouter. Oui, je dis bien écouter, Carole, car tu es constamment en analyse, je dirais en introspection, et la finesse de ton écriture, avec une sensibilité à fleur de peau, m'a donné à moi, lecteur, l'impression d'être en intimité avec toi, l'auteur tout au long de cette lecture. J'ai écouté comme un morceau de musique qu'on écoute et qu'on réécoute. Alors, Carole Bérébi, tu es, pour parler un peu de toi, tu es juive, née à Tunis en 1955.
J'aurais bien aimé.
55. Et tu es revenue avec ta famille en 61, c'est ça, je ne me trompe pas cette fois.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde. Tu as reçu une éducation juive, imprégnée de culture juive, et pourtant tu as pris quelques distances avec la tradition familiale que l'on connaît.
Oui, j'ai pris quelques distances, mais c'est pas ça l'important.
Bon, c'est pas très...
Non, je suis complètement dans la tradition familiale. Je n'ai pas suivi le modèle de ma mère qui est de se marier à 20 ans, c'est tout. Mais la tradition juive, je l'ai dans mon sang.
D'accord. Alors tu joues de la musique et tu aimes la poésie.
Énormément.
D'ailleurs, tu m'as lu quelques poèmes de ton cru que j'ai beaucoup aimé. À la lecture de ton livre, quand même, « Les gens qui s'aiment », il m'a semblé qu'un sentiment a été déterminant pour toi, pour ton choix de vie. Peut-être je me trompe, tu vas me le dire. Tu écris « Avoir peur des hommes », mais en fait, je ne sais pas si ce mot « peur » traduit une réalité. Peut-être qu'on devrait dire « l'absence de confiance ». Qu'est-ce que tu en penses ?
Le personnage central du livre un manque de confiance, effectivement, dans la gente masculine, et ça s'expliquera assez facilement par la relation qu'elle a avec son père, et on va pas en dire plus puisque c'est expliqué dans le livre.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai repris deux, trois phrases. Tu dis « J'ai peur des hommes, aucun n'a jamais pu faire reculer cette peur, je ne connais pas la raison, mais j'ai peur ». Et puis tu dis aussi à propos d'un échange avec ta mère. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu frappé aussi.
L'auteur avec sa mère.
Ah, oui, l'auteur, pardon, effectivement. Donc l'auteur avec sa mère, il y a une petite discussion parce qu'elle s'était engagée, elle avait accepté un fiançaille avec un beau jeune homme. Mmh. Et puis ça n'allait pas. Et à un moment donné, l'auteur voit sa mère, et puis elle lui dit « Je crois que je me trompe. Je viens d'accepter qu'on me mette en cage. » Alors là, c'est quelque chose qui est assez significatif, peut-être, de cette peur des hommes, non ?
Bah, tu as sans doute raison, mais je pense d'abord qu'elle est dépassée, donc c'était il y a longtemps, et ensuite, parce qu'il y a eu un homme qui m'a redonné confiance en l'homme et en l'être humain, je crois que c'est ça le plus important, et je crois qu'on traîne toute notre vie des vieux fantômes, et un jour, eh ben, on s'en débarrasse, tout simplement.
Tu me donnes l'impression d'être un électron libre, c'est-à-dire que Tu ne veux pas d'engagement définitif, est-ce que je me trompe ?
Un engagement définitif, je pense que j'en ai pris quand même dans ma vie, surtout en mettant au monde un enfant. Mmh. Ah. Donc ça, c'est un engagement. Oui. Ça, c'est un engagement pour une vie. Toutes les mères se reconnaîtront. Un enfant, c'est pas parce qu'il a 18 ans ou 20 ans et qu'il a quitté la maison qu'on n'est pas attentive à lui. Mais ta question, oui, je suis un électron libre. Troisième fille d'une famille juive tunisienne, quand un père veut un garçon, il faut s'imposer. En tout cas, le personnage a cherché à s'imposer et à montrer qu'il n'y avait pas qu'un modèle. Il n'y a pas qu'un modèle, il y a réinventé la vie. Et moi, je crois que j'avais envie de réinventer mon modèle, mes choix. Et je voulais pas qu'on m'impose, tout simplement, c'est ce que t'as dit, un électron libre, bah c'est ça, à 17 ans et demi je me suis engagée, mm-hmm. pendant la guerre de Kippour, oui. sac à dos, sans autorisation, ça c'est un électron libre,
tout à fait.
Sans la bénédiction des parents, mm-hmm. en disant il est pas question que tu partes, je suis partie. Oui. Donc oui, j'avais ce caractère volontaire, voilà, c'est ça, le personnage en tout cas avait la volonté d'être libre.
Alors, le personnage, comme tu dis, parle beaucoup de bohème. Et on sent que derrière ce terme de bohème, il y a tout un espoir, toute une façon de voir. Parle-moi de ce bohème.
Là aussi, il y a un chapitre complet. Je fais l'éloge de la bohème. Je ne me suis pas permise d'être bohème, parce que c'est compliqué d'être bonne. C'est un luxe.
C'est un luxe.
Mais c'est vrai que bah, si on croit à la réincarnation et qu'on me donne encore une autre vie, peut-être, et bah, je serais, oui, la bohème dans le sens artiste, dans le sens, je ne sais pas, chanter, ménestrel. Bon, je l'ai fait un petit peu dans cette vie, mais je ne me suis pas offert cette carrière qui m'aurait plu, d'être sur scène, de parler, de chanter, de partager. Et d'enthousiasmer les gens par la musique, la poésie, oui. les chansons. Voilà, c'est ça qui me plaît.
Je vais lire une phrase, parce que tu sais, j'avais envie de tout réécrire tellement tes phrases sont belles. Alors, tu dis, dans mes relations amoureuses, j'ai toujours besoin de ce côté artiste chez l'autre. La bohème, pour moi, c'est sortir du poids de la joie et de la tradition. Il n'y a que ceux qui ont une éducation libre, ouverte, sensible, qui peuvent se permettre d'être bohème.
Bah, il ne faut pas que tu lises tout. Hein, tu lis tout, ah tu non, racontes tout.
Mais ça, c'est trop fort.
C'est trop mignon. Non. Oui, bon, la bohème, il y a tellement de gens qui ont parlé de la bohème mieux que moi. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Et ça, on ne peut pas l'oublier, on a 20 ans.
Oui.
C'est
oui.
Ça la bohème. Dis-moi, on a tous les droits.
Tous les droits et tous les espoirs.
Et on est invincible quand oui. On a 20 ans.
Mmh. Tout voilà. À fait, tout à fait. Mais tu es resté comme ça.
J'espère.
Alors, justement, cette bohème-là t'a amené, peut-être que c'est ça, à aller en Inde. Et tu parles de l'Inde comme quelque chose que tu as découvert. Je voudrais que tu m'en parles un peu.
Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi que dans les années 80, l'Inde, c'était l'endroit où il fallait aller. C'était... Après 68, c'était Goa, c'était la vie libre, c'était les copains qui étaient plus âgés que moi qui étaient partis en 68. Parce que 68, j'aurais voulu partir, mais j'avais que 13 ans.
Ah.
Donc il y avait plein de copains qui avaient été là-bas réinventer la vie. Mais ces voyages en Inde ont été des moments magiques, mais ça ne m'a fait que me conforter. Dans mes traditions, dans mon histoire, dans l'amour de la famille, de la Tunisie, de ma culture. C'est pas contre l'un contre l'autre. C'est une belle découverte. Je suis retournée 4 fois depuis. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le Kerala. Mmh. C'était magnifique. Mais je ne suis pas devenue bouddhiste, peace and love, même si j'avais l'état d'esprit de cela. Dans les années 80, on était tous peace and love.
Oui, tu avais la guitare en bandoulière.
J'avais la guitare en bandoulière, les cheveux frisés comme ça dans le vent, et on aimait chanter John Baez, mais bon, c'était l'époque qui voulait ça.
Tu parles de l'odeur.
Ah ouais, l'odeur. L'odeur, c'est toute ma vie. L'odeur, c'est... mon grand-père, Gaston Ganem, qui, en Tunisie, avait une usine d'huile d'olive. Et je dois avouer qu'on a grandi dans les fûts d'huile, avec l'odeur du savon. Et quand on est arrivé en 61-62 à Nove, dans ce petit village dont je parle, il a fait la société olicole des moulinets de Provence. Et c'était l'huile d'olive. Et on a grandi dans ça, et chaque fois c'était « viens sentir, regarde la couleur, la première pression à froid ». Et puis il y avait aussi Monsieur Boukobza dans la même usine qui faisait l'eau de vie de figue.
Oui.
Et Bernard, son fils, c'était mon ami. Donc on a grandi avec l'huile d'olive et la bourra. Je crois que c'est les deux mamelles de la Tunisie.
Tout à fait. Tout à fait. Alors... je dirais que tu as connu des fulgurances dans ta vie, plusieurs. Je crois que c'est ton tempérament.
Ouais, je crois que tu as lu le livre de très près, moi.
Et alors, une de tes fulgurances, c'est la rencontre avec Margot. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et ça, c'est une rencontre absolument merveilleuse. Tu veux bien nous en parler ?
C'est avec émotion que je vais vous dire que dans la vie, quand on a une amie comme le personnage principal à rencontrer, c'est plus que des liens du sang. Comme dit Herbert Pagani, c'est la banque de toutes les tendresses. C'est exactement ça. C'est la banque de toutes les tendresses. Et quand il vous manque quelque chose, on vous tend la main et on le partage. Voilà, c'est tout. La rencontre. C'est ça la rencontre. C'est moi, je pense que c'est une histoire d'âme. Je suis très mystique.
Oui. J'aurais envie de lire quelque chose, mais tu m'accuses de trop lire. Tu dis que quand tu l'as vue, tu as vu une fille merveilleuse. Et tu
j'ai
as
vu une âme.
C'était une rencontre mystique.
Oui, c'est ça que
et
j'ai dit.
Et tu as dit, mais dans ta tête, tu te disais, fuis-la, il faut que et elle va changer ta vie.
Mais je suis sûre que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois dans leur vie. Une rencontre où tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai que envie de parler, d'échanger, de se raconter, de comprendre l'autre. C'est magique. C'est ça l'amour et l'amitié. C'est la magie. C'est la magie de la rencontre. Mais je te jure qu'il y a pas longtemps, il y a une semaine, j'étais dans une bar mitzvah. Tu vois, tu dis que je suis pas très traditionnelle, mais je suis très traditionnelle. J'étais dans une bar mitzvah sur une péniche à Bordeaux. Et j'ai rencontré, je ne sais pas ce que ça va devenir cette relation, mais il y avait une jeune femme de 40 ans avec qui on a commencé à parler, et pourtant il y a une grande différence d'âge, aujourd'hui elle aurait pu être ma fille. Et ben, j'ai eu le sentiment d'avoir sucé les mêmes bonbons et d'avoir, comme il y a 40 ans, à cette époque, avoir envie de continuer la rencontre et la discussion. Et ça, je ne sais pas où on va aller avec cette baïa qui est magnifique. Et bien, aller plus loin dans la rencontre de l'âme de l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Je te disais tout à l'heure que tu n'avais pas changé. C'est la preuve, tu vois, tu n'as toujours pas changé. Et je voudrais te dire quelque chose. En physique, quand on étudie les lois physiques, il y a un phénomène qui s'appelle la résonance. Et c'est quoi la résonance ? C'est un échange entre deux éléments, mais cet échange est au maximum, le flux absolument maximum, aucune résistance. Eh bien moi je crois que c'est ça, tu es dans un phénomène de résonance avec cette Margot que tu as connue, et peut-être aussi avec cette Baïa dont tu viens de nous parler.
Oui, c'est magnifique, ces rencontres, c'est pas tous les jours, voilà. C'est une étoile dans le ciel. Vraiment.
Alors, puisqu'on parle d'amitié, et puisque ça a été une chanson absolument importante pour toi, on va écouter un morceau, tu sais lequel ?
Ah oui.
Dis-nous.
Oui, William Scheller.
Voilà, William Scheller que j'ai écouté, je ne connaissais pas vraiment, j'ai écouté, et puis c'est pareil.
Pourquoi les gens qui s'aiment ?
Exactement.
Mais je crois que le titre du livre vient de quand même.
J'ai compris aussi. On écoute.
Sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Alors avec Carole Bérébi, nous parlons aujourd'hui d'un livre, de son livre, Des gens qui s'aiment. Et on vient d'entendre, justement, puisqu'on parle d'amour et d'amitié, on vient d'entendre William Scheller. Alors, on parlait de fulgurance, Carole, et voilà une deuxième fulgurance. À 39 ans, tu dis, je veux un enfant, c'est l'urgence, l'évidence. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est une fulgurance, peut-être, comme beaucoup de femmes qui sont pas loin de la quarantaine, mais... Je pense que j'aurais voulu avoir des enfants avant. Ça s'est pas fait et tout d'un coup la fulgurance, elle est, la date, elle est là. Mais quand à 20 ans tu décides d'être éducateur, tu fais du social pendant 10 ans, quand les enfants te passionnent, quand tes neveux et nièces sont venus chez toi pendant des années, tu aimes les enfants, tu aimes les adolescents. J'adore les adolescents. J'adore l'échange avec les adolescents. Les adolescents, c'est l'âge dur pour une maman, mais c'est l'âge où tu apprends et à grandir et à le faire grandir. Enfin, j'espère en tout cas. Mmh. Mais oui, c'était le désir de transmission. Je ne me voyais pas... Je ne me voyais pas ne pas donner la vie. Je me rêvais enceinte. Donc, c'était plus qu'une fulgurance. C'était il fallait que je sois maman. C'était une évidence que le personnage... du livre, soit maman.
Mais quand ta copine, quand ton amie, pardon, Margot a eu un enfant, tu étais avec elle à la clinique quand elle était en train d'accoucher et tu as dit je fais un peu le deuil de mon enfant. Alors à ce moment-là, tu ne pensais pas avoir d'enfant et puis d'un coup, c'est arrivé.
C'est difficile pour moi maintenant d'employer le mot deuil d'un enfant quand c'est on a un beau jeune homme. Mmh. Oui. Oui, ben je reviens. Ben là, tu dévoiles aussi tout le livre, c'est-à-dire oui, bien sûr. J'ai pas voulu rentrer dans le schéma. Je voulais pas me marier à 20 ans. Je voulais pas avoir des enfants tout de suite. Et c'est vrai qu'un jour ça te rattrape, tout simplement. Ce désir de transmission, de famille, de tradition. C'était plus qu'une évidence. Et comme Sarah, il fallait que je me batte pour avoir un enfant. Et j'avais décidé que, ça y est, je ne pouvais pas ne pas avoir d'enfant. Il fallait que je me batte. Après, bon, c'était à la vie de décider. Mm-hmm. Mais je prenais ce combat comme un challenge. Voilà.
Et bien sûr, quand on lit ton livre, on apprend des choses absolument merveilleuses que je ne dévoilerai
non,
pas.
Non, il ne faut pas tout dévoiler.
Il faut que les gens puissent découvrir un petit peu. Voilà, alors on arrive presque au terme de l'émission. Je crois que tu voulais parler de ton éditeur.
Ben, l'éditeur, on l'a cité, c'est Mama Édition. C'est vraiment une équipe formidable. C'est vraiment des gens qui vous font participer. Vous n'êtes pas qu'un écrivain. Vous faites partie de leur famille, et je veux citer Juliette, Dédé, Tigrane, Mishka. On rentre chez Mama Édition. Et d'ailleurs, le... vous vous rendez compte ce nom ? Je parle de maternité. C'est quoi mon livre ? Mon livre, c'est une histoire de ventre et de femme. Voilà. Oui. Et cet éditeur qui m'a choisi, parce que c'est pas moi qui ai choisi l'éditeur, et je remercie Harry Torgeman qui a envoyé les manuscrits, parce que pour moi c'est un film, les scénarios à des éditeurs, et on tombe sur un éditeur qui s'appelle Mama Édition. Enfin, c'est quand même assez, assez drôle, non ?
Ah oui, oui,
comme histoire. Voilà, je veux remercier Régis Lefort, qui est mon professeur de poésie, qui m'a accompagné à l'université du temps libre, qui m'a donné confiance en moi, qui m'a encouragé, qui m'a posé des bonnes questions, que je remercie à la fin du livre, qui est un ami et qui est un maître. Voilà, je vous remercie d'avoir eu cette patience de m'écouter. Merci
alors,
Roland.
Alors, attends, je voulais te dire aussi que finalement, cette histoire, c'est une histoire qui fait intervenir trois personnages, et trois personnages vraiment hors du commun. C'est l'auteur, je crois qu'elle s'appelle Carole Bérévy, c'est Margot, et c'est son ami Luc.
Son mari,
Luc.
Le père de ses enfants.
Voilà, c'est vraiment une histoire fantastique. Alors, avant de terminer, je voudrais savoir où on peut trouver ce livre. Où on peut l'acheter.
D'abord, il y a un site, carole.bérébi.info.
Oui.
Donc là, il y a toutes les explications. Il est dans toutes les FNAC, dans toutes les bonnes librairies. Il est à Marseille sur la Canebière. Comment il s'appelle, ce bon éditeur que j'aime, ce bon libraire que j'adore. Maupetit,
oui.
Il est à Mazargues, bon. Il est à la Trappe-Maux, il est à Marseille.
D'accord.
Mais je crois qu'on a tout dévoilé, là.
Non, bon. Pas du tout. Il y a des choses très importantes qui vont se passer et qui sont absolument hors du commun. Un miracle, je pense.
Merci beaucoup, voilà. Roland.
Et merci pour
merci
avoir écrit ce
pour
livre.
Ta gentillesse.
Et je te dirais que, si tu veux, on peut se retrouver une deuxième fois pour aller un peu plus loin dans ce livre sans vraiment tout dévoiler. Chers amis, bonsoir, bonjour et à la semaine prochaine. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.